j'essaie de concevoir et d'imaginer ce qui se déroule dans l'esprit envoûté des toxicomanes. Par exemple, un toxicomane sous l'empire des drogues appelle le mégot un roach, un cafard, disons. Car il y voit un genre de cafard. Or, ce genre de comparaison morbide...
Putain, mais de quoi il parle ce con-là? Il faut être raide à l'acide pour trouver qu'un joueur ressemble à un cafard. Tu te merdes.
Tous les lundis, à 21h, sur Radio Canu.
Cannabis Circus.
Cannabis Circus.
Cannabis Circus, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes bien sur Radio Canu, comme tous les lundis soirs.
Vous êtes bien sur Cannabis Circus, vous inquiétez pas, on n'est pas déménagé en Corée non plus. Voilà, entre les 10 minutes de blanc la semaine dernière à cause d'une table éteinte que j'ai découvert au bout de voilà, quasi 10 minutes, et je m'en excuse encore, et un lancement de générique foiré avec un CD dont on ne sait pas d'où il sort, probablement de l'émission précédente qu'on salue bien d'ailleurs au passage.
Oui, que même pas précédente, dans la d'avant-avant.
Avant, alors, qui a oublié son CD dans le lecteur 1.
Non, on lui a mis à sa place qu'il n'était pas là, etc. Et les gens ne l'ont pas enlevé totalement. Donc c'est la faute à pas mal de monde et à personne à la fois.
Bon, on ne sait pas.
C'est les complexes de Radio Canada.
Des gens ont mis, on ne sait pas qui. Voilà, bon, bref. Mais en tout cas, voilà, vous êtes bien avec nous dans le Cannabis Circus, comme tous les lundis soirs, hein, dans ce même créneau horaire entre 21h et 22h, pour décrypter un peu l'actualité sur les drogues et le cannabis en particulier. Et encore ce soir, on va parler de tout ça. Alors avant d'aller dans l'actualité...
Parce qu'il se passe plein de choses en fait dans le monde hein, quand même. Hein.
Ouais. Il se passe plein de choses, mais avant d'en parler, donc je voudrais vous rappeler une fois de plus que le cirque est une association, loi 1901, qui n'existe et ne vit que par le biais d'adhésion que pourraient faire ses membres qui voudraient bien adhérer au cirque. Donc voilà, j'en profite parce qu'il y a peut-être des fois, je vois des commentaires sur les réseaux sociaux ou par les gens qui nous contactent. Le cirque ne bénéficie pas de subventions publiques, ne répond pas à des appels d'offres, ne risque pas de le faire. Hein. Je vous rappelle quand même que le cannabis est une plante, le chanvre, le cannabis, hein, notamment pour ses aspects récréatifs, est totalement interdit en France. Hein. On se bat pour ça, justement, pour que ça change. Donc voilà, le cirque ne bénéficie pas de subventions publiques. Le cirque ne connaît pas non plus de généreux donateurs qui pourraient lui donner plusieurs dizaines ou centaines de milliers d'euros. Non, et non. Ah, voilà, on est bien désolé d'ailleurs, ça nous rendrait bien service, mais ce n'est pas le cas. Donc voilà, le cirque ne vit que par les adhésions qu'il reçoit de ses membres. Et nous ne sommes pas des dizaines ou des centaines de milliers en France à être membres du cirque. Là aussi, je pense qu'il y a des gens qui pensent qu'on est des milliers, voire des millions, et que grâce à cet nombre important d'adhérents, nous allons inverser le rapport de force. Voilà. Bah non, en fait, c'est plus compliqué que ça. Voilà, on est à ce jour, dans toute la France, à peu près, je dirais, une centaine de personnes à être à jour de leur cotisation. Donc c'est pas énorme. Et c'est 10 fois moins qu'il y a 20 ans. Voilà. Donc il y a 20 ans, on était quasiment 1000 adhérents. Au cirque, le cirque crée quand même l'engouement. Là, il y avait un fort engouement des gens qui voulaient être membres du cirque, qui sentaient bien qu'avec le cirque, on allait faire bouger les choses. Et c'est vrai, ça a quand même porté un peu ses fruits. Mais curieusement, je dis ça comme ça, ironiquement, hein, curieusement, quand Chirac a été réélu en 2002, la plupart des adhérents du cirque ont déguerpi, ont eu peur, à croire que sous Chirac et Jospin... beaucoup de gens espéraient quand même que les choses changent, mais ça ne s'est pas produit comme on l'espérait. Donc voilà, et depuis, il n'y a pas de forte adhésion nouvelle de gens, même avec ce qui se passe en Uruguay, au Colorado, malheureusement. Raison de plus pour laquelle voilà, j'insiste sur le fait que le cirque donc, est une association qui est composée d'individus, de citoyens qui s'engagent bénévolement pour faire avancer les choses au sein du cirque. Que le cirque ne compte plus que quelques membres actifs dans toute la France et également à Lyon. J'insiste un peu là-dessus parce qu'on a encore, on a un peu des membres qui pour des raisons personnelles, hein, sont parfois obligés de quitter l'association. Donc voilà, encore une fois, je lance un appel en fait à toutes les bonnes volontés, les personnes qui se sentent concernées par la question du cannabis, qui sont indignées par le sort qui est fait aux usagers récréatifs ou thérapeutiques. Je lance un appel à toutes les personnes qui en ont marre d'être infantilisées par la loi sur la question du cannabis et des drogues. Et voilà, des gens qui voudraient s'investir au sein d'une association, d'un collectif, qui seraient prêts à se bouger pour donner du temps, de leur bonne volonté, pour aller tracter, flyer, faire de l'affichage, pour tenir des stands, pour participer à des manifestations, pour écrire des communiqués de presse, pour voilà, faire plein de choses, pour faire un peu de coordination d'une équipe de bénévoles également. Ça serait bien, parce que honnêtement, je sais pas combien de temps on va pouvoir durer à deux, en fait, ou à trois. Ça va être compliqué au bout d'un moment. Car comme vous le savez, à moins que vous ayez des pouvoirs surnaturels, le don d'ubiquité n'existe pas. Hein. On ne peut pas être présent dans plusieurs endroits au même moment. Et on n'a que deux bras, deux jambes et une tête en général. Ah, à peu près. C'est à peu près comme ça que ça se passe. Et qu'une journée dure 24 heures. Voilà. Donc... à peu, on fait pas beaucoup, et à beaucoup plus, on fait bien plus. Voilà, tout simplement. Donc, voilà. Puis il y a plein d'avantages à être membre du cirque. Je peux pas vous les dire à l'antenne, mais il y en a. Voilà. Donc, je vous invite à vous rapprocher du Cirque Lyon ou de la Fédération des cirques, hein, d'ailleurs, pas qu'à Lyon. Ailleurs, il n'y a plus beaucoup de cirques. Hein. Il y en avait beaucoup, mais il n'y en a plus beaucoup. En gros, il n'y a plus que Lyon et la Fédération des cirques. Me semble-t-il, le Cirque Bretagne existe toujours, mais le Cirque Bretagne nous renvoie des personnes qui voudraient adhérer. Donc bon, j'en déduis que là aussi au Cirque Bretagne ils sont plus beaucoup et que du coup fort logiquement ils vont pas demander à des gens de s'engager au Cirque Bretagne à partir du moment où il y a plus personne pour gérer ça et coordonner, donc ce qui est un peu normal. Voilà. Après. Ce qui se passe au cirque se passe dans plein d'autres associations. Hein, on n'est pas les seuls à avoir constaté une fuite de nos adhérents. Voilà, le monde associatif en général est en crise, hein, depuis. Alors comme c'est marrant d'ailleurs, depuis 2002, voilà, c'est bizarre. Hein, il se passe des choses des fois. C'est bizarre. Bon, pourquoi en 2002 si vous savez pas, je vous invite à aller vous renseigner. Verrez, il s'est passé des choses en 2002. Hein. Donc, ça fait quand même un paquet d'années que ça dure, et voilà. Voilà, voilà. Eh bien, maintenant, donc, on va s'intéresser à l'actualité.
Il faut le contacter.
Ah
le
oui,
cirque,
oui, oui, oui. Il faut pouvoir contacter le cirque quand même. Donc, par téléphone.
Tout ce plaidoyer.
Voilà, c'est tout à fait. J'allais oublier quand même les contacts. Donc, par téléphone, vous pouvez nous contacter au 06 11 53 10. 07 06 11 53 10 07. Vous pouvez nous contacter par mail cirque-lyon@no-log.org, tous les tirets étant les tirets du milieu. Si vous ne trouvez pas, vous ne vous rappelez plus de l'adresse mail, vous pouvez aller sur notre site internet cirque-lyon.fr et dessus vous trouverez plein d'infos, notamment comment nous contacter ou comment adhérer. Vous pouvez également adhérer directement au cirque, à la Fédération des cirques, dont cirque-asso.org. Voilà, et donc pour ce qui concerne le Cirque Lyon, là, je reviens sur le Cirque Lyon, on a une adresse postale. Oui, encore aujourd'hui, en 2016, on a une adresse postale. Ça existe, ça marche toujours, hein. Pas que les emails qui marchent. Hein. Donc Cirque Lyon, boîte postale BP 93 043 69 605 Villeurbanne, Sélex. Voilà, j'ai donné toutes les coordonnées. Et puis alors, sur les réseaux sociaux aussi, quand même, sur Facebook, la Fédération des Cirques sur Facebook, et le Cirque Lyon sur Facebook, la revue de presse dont on vous parle tous les lundis est globalement tirée des informations qui tournent sur la page Facebook du Cirque et du Cirque Lyon. Voilà, là, sur Radio Canus, c'est l'information orale, hein, auditive. Voilà, et puis je termine là-dessus, j'en profite pour vous redire, je le dis pas assez souvent, mais il y a aussi une télévision du cirque, la Cirque TV, à laquelle vous pouvez accéder directement sur le site internet du Cirque Lyon, dans la colonne de gauche avec tous les logos. Et sur la télé du cirque, sur Cirque TV, on trouve vraiment, mais vraiment, des tas de vidéos super intéressantes. C'est une mine d'informations. Des colloques, des interviews, des émissions de télé et de radio qui parlent du sujet, des débats. Voilà. Franchement, il y a. Genre, aujourd'hui, avec l'émission de radio qu'on fait tous les lundis, quand on voit toutes les infos qui circulent via Facebook ou toutes les infos qu'il y a sur Cirque TV, ici à cette antenne, le lundi soir, on vous livre qu'une infime partie des infos qui circulent voilà, sur la question du cannabis. Il faut être clair, hein, y a tellement d'infos maintenant avec Cirque TV, sur Facebook. Parce que même là, la revue de presse dont on parle tous les lundis, ce n'est qu'une sélection des articles. On ne peut pas tout mettre, sinon on aurait 25 pages et l'émission faudrait qu'elle dure 3 heures. Voilà. Je pense avoir fait un peu le tour de tout ça. J'en profite aussi. Voilà, c'est aujourd'hui, hein, donc c'est à mon avis la dernière émission de l'année 2016. Je suis pas certain qu'on sera là la semaine prochaine, lundi 26. Je suis pas certain, peut-être, mais pas sûr. Hein, j'y serai peut-être. Hein, toi, tu viendras pas.
Ça m'étonnerait.
Moi, je suis pas sûr, mais c'est possible. On verra, on verra. Mais donc voilà. Donc c'est possiblement ce soir la dernière émission de l'année 2016, et c'est aussi une émission avec. Ce soir, il n'y a pas énormément de choses à parler, donc on pouvait perdre un petit quart d'heure pour raconter, voilà, vous dire tout ce que je vous ai dit ce soir. Voilà.
Voilà, voilà. Puis on reviendra un petit peu sur le cirque, parce qu'il y a un communiqué de presse qui a été fait avec d'autres associations.
Et oui, parce qu'il se passe des choses graves.
Il y a des petits trucs qui passent en loose day, même si
aussi,
on est qu'en fin de parcours, donc ça, on va revenir dessus tout de suite en début de revue de presse. Et puis on va reparler aussi un petit peu de ce qui se passe évidemment au Colorado, le cannabis pour relancer la croissance. Alors il y a des études qui ont été faites maintenant que ça fait quelques années que ça tourne. Et ben pour la France, ça ferait quand même 200 000 emplois, 1,5 milliard euros de recettes, juste en appliquant la seule multipliée par 10, c'est-à-dire proportionnellement à la population du Colorado. Bref, on reviendra sur cette étude. On reviendra aussi sur les arguments de Benoît Hamon qui reprennent un petit peu ça, qui parle aussi de délinquance, des effets sur la santé. Et puis on ira beaucoup au Canada où bah, c'est là-bas que la légalisation va arriver, avec des débats sur l'âge, 21, 18 ans, avec des consultations, des études justement sur ce qui se fait ailleurs. Et puis, pour finir quand même, je pense qu'on arrivera à finir et pas parler de lui, c'est Marc Emery. C'est quelqu'un qu'on connaît bien, puisqu'on l'avait défendu, on avait parlé de lui lors de certaines journées mondiales pour la légalisation du cannabis, c'est-à-dire les premiers samedis de mai, c'est-à-dire... c'était plus en quelle
pour la marche mondiale du cannabis, non.
C'est pas oui,
la marche mondiale, la manif, oui, la manif internationale. On a brandi des pancartes avec son nom et son visage, et on a crié « Libérez Marc Emery ».
Tout à fait, oui, ça fait une bonne dizaine d'années, il me semble.
Cannabineux, ben non, puis il n'y a même pas très longtemps, parce qu'il a été libéré il n'y a pas très très longtemps.
Tout à fait. Et là, voilà. Il vient d'en remettre une petite couche, vu que ça va être légalisé. Et ben,
il va plus vite que la loi, lui, qu'il anticipe.
Il anticipe la légalisation.
Mais les flics avaient anticipé l'avaient anticipé aussi, ouais. Bon, on verra ça. Et donc, oui, pour terminer, je ne sais pas si tu pensais que ça serait la fin, mais juste... On parlera du président philippin Rodrigo Duterte. Voilà, on en reparlera parce que alors lui déjà bon c'est la crapule de l'année, hein, faut quand même le rappeler. C'est vraiment le, je sais pas comment dire, hein, pour certains le surnomme même le Donald Trump de l'Est. Et voilà, on parlera de lui un peu plus tard. Voilà.
Voilà. Et puis juste pour commencer quand même la petite brève de notre
sur mamie.
De mamie, notre mamie record.
Alors mamie, enfin une dame de 72 ans, hein, c'est un article de France Bleu, Gare-Lozère. Donc une dame d'un âge respectable, hein, de 72 ans, qui a été contrôlée positive au cannabis, et oui, c'est possible, par la brigade de gendarmerie motorisée d'Alès. Et ces derniers d'ailleurs n'en reviennent toujours pas. Voilà. Bon, ils sont un peu, ils sont pas très à la page ces gens. Ils sont pas très à la page. Voilà. Donc, il était 15h25, mercredi 14 décembre. Les gendarmes étaient au bord de la route et faisaient signe à des automobilistes de s'arrêter, tout simplement pour vérifier leurs papiers, le port de la ceinture de sécurité, tout ça. Enfin. Bon. Et donc voilà, ils sont tombés sur une conductrice d'âge mûr.
On est en 44, donc pas toute jeune, quoi.
Oui, enfin bon, voilà. Bon, bah, a priori, tout va bien pour cette dame. Ils ne sont pas inquiétés. Mais les militaires ont quand même l'œil et savent, enfin, on leur apprend en tout cas à surveiller et à regarder des petits indices hein, comme ça qui peuvent être, qui peuvent parler, quoi. Et en l'occurrence, ben, ils ont prêté attention à quelques petits détails, notamment olfactifs, hein, l'odeur, et aussi visuel. Ils ont trouvé que la dame n'était pas dans son état normal et qu'elle avait les pupilles dilatées. Voilà. Alors ils lui ont fait faire un test salivaire. Et bah oui, ça a marché, bingo, hein, il s'est révélé positif au cannabis, le test. Donc la dame qui habite dans les environs d'Alès n'a pas résisté. Bon, elle reconnaît hein, qu'elle fume visiblement, et c'est pas la première fois hein, apparemment. Là, par rapport aux gendarmes, par contre, c'était peut-être le petit pétard de trop, hein, parce que elle est repartie sans son véhicule quand même, et elle a eu droit à un retrait de permis sur le champ. Voilà. Beaucoup de réactions sur Facebook, sur les réseaux sociaux, suite à l'interpellation de cette dame.
Voilà, mais bon, on voit quand même un peu l'absurdité de toutes ces réglementations.
Oui, oui, oui. Et puis, moi, ce que je trouve aussi assez dingue, c'est la réaction des gendarmes qui ont l'air surpris comme ça. Cette dame, elle a 72 ans aujourd'hui. Elle a peut-être commencé à fumer, je sais pas, dans les années 80.
Peut-être dans les années...
70 ou 60, je sais pas. Bon, bref, voilà, tout simplement. Il y a des gens en France qui fument du cannabis et qui ont plus de 20 ans ou 25 ans. Ça existe, hein, il y en a plein. Hein.
Oui, si ça se trouve, elle a connu le cannabis dans les années 60-70 et elle est allée en campagne, elle ne l'a jamais quitté, quoi.
Voilà, voilà. Donc, bon, encore une fois... En tout cas, cette espèce d'ignorance des policiers ou des gendarmes hein, sur le fait que des gens un peu plus âgés puissent fumer, quelque part, elle fabrique une discrimination, alors je ne dirais pas positive, mais en tout cas, elle permet à tout un tas de gens de passer entre les fourches caudines de la loi. Hein, parce qu'ils n'ont pas le bon look, la bonne tête, hein, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas jeunes, ils n'ont pas de piercing, pas de dreadlocks. Pas de casquette, ils n'ont pas une tête de jeunes à sortir des banlieues, hein, parce que pour la police, pour beaucoup d'entre eux, les jeunes qui fument, enfin les personnes qui fument sont des jeunes et ils sortent de ces endroits-là. Alors si vous n'avez pas cette tête-là, vous passez quasiment à travers tous les contrôles, en fait. Bah, quasiment, hein, quasiment. Parce que mamie, là, elle n'avait pas le look, mais elle n'est pas passée. Enfin, en tout cas, il faut être prudent aussi quand on conduit, il faut faire attention à que ça ne sente pas trop dans son véhicule. Pas l'air trop déchiré, enfin tout ça quoi. Et là, c'est pas passé.
Il ne faut pas conduire déchiré.
Aussi, voilà. Musique, à tout de suite.
J'ai bien connu Mexico Bay. J'y ai croisé un japonais. Il m'a dit marche sans te presser. Y'a pas grand chose à visiter. Je suis passé chez Walt Disney. Y'avait tout un tas d'allumés avec des costumes de Mickey qui dansaient comme des avalés. D'autres eaux, des eaux remplies d'animaux qui s'engueulaient dans la télé. J'ai rencontré Brigitte Bardot, elle m'a trouvé un peu par chaud. Elle m'a dit viens voir mon coco, je vais te présenter à mon blaireau. Jusqu'à l'Elysée, là-bas le chef, j'ai réclamé. Il m'a dit, si tu manques de blé mon petit gars, y'a aucune raison d'espérer. J'ai rencontré Madame Maigret,
salope,
pour lui faire jouer
du djembé. Elle avait l'air un peu gênée de parler à un étranger. Peut se tromper, tout le monde peut se tromper, tout le monde peut se tromper.
Merci. Et ouais, bah c'était bien un petit Mickey 3D. Tout le monde peut se tromper.
Et oui, tout le monde peut se tromper, en effet. Ça arrive.
Et même notre gouvernement, a priori, qui continue à s'enferrer dans des conneries.
Le gouvernement ment énormément.
Ouais. Loi égalité et citoyenneté, une loi à deux vitesses.
Au moins, au moins. Donc c'est un communiqué de presse hein, du cirque de samedi dernier, donc très récent, qui se prononce une fois de plus, hein, parce qu'il y a déjà eu d'autres communiqués, enfin il y a déjà eu des communiqués du cirque précédemment par rapport à cette loi justement. Je m'excuse, mon micro s'est démantibulé en direct, voilà. Donc je vous lis ce communiqué de presse. Remarquablement occulté dans le flot d'une actualité, il faut bien l'avouer, dramatique, hein, le nouvel amendement adopté le 23 novembre dans le cadre de la loi Égalité et Citoyenneté marque un nouveau durcissement à l'égard de la population usant de drogue. Stigmatisée par la sécurité routière, la voici potentiellement jetée à la rue, comme le prévoit désormais le droit français. Et pourquoi ne pas non plus interdire la cantine ? Et puis l'école aux enfants d'usagers, ou les prestations sociales, ou l'emploi, comme cela se profile avec les tests antidrogue en entreprise. La loi Égalité et Citoyenneté était discutée en deuxième lecture à l'Assemblée nationale le 24 novembre dernier, après son passage au Sénat. Si l'on peut se féliciter d'un certain nombre d'avancées sur des questions cruciales, l'article 33 bis AA nous inquiète particulièrement et questionne l'intitulé même de ce projet de loi. L'amendement 666-2 à l'origine de cet article prévoit qu'un contrat de location immobilière puisse être, je cite, « résilié de plein droit à la demande du bailleur lorsque le locataire ou l'un des occupants du logement a fait l'objet d'une condamnation passée en force de choses jugées pour trafic, vente, achat ou usage de drogue en vertu des articles 222-34 à 222-39 du code pénal. C'est pourquoi les associations d'usagers de drogue, de défense du droit au logement, des droits humains et d'accès à la santé s'inquiètent vivement de la nature discriminante de cet amendement. Rien qu'avec le cannabis, ce sont des centaines de milliers de personnes potentiellement concernées. Dans un tel contexte, les peines prévues par la loi, un an de prison pour usage simple, ne sont largement pas appliquées, sauf pour les minorités visibles et les quartiers populaires. La politique répressive s'applique de façon inégalitaire selon les publics et favorise une justice à deux vitesses, on le sait bien. Il en sera de même dans l'application de cet article, qui ne fera pas que perpétuer cette inégalité, mais l'accentuera en ne concernant que les locataires. Les associations d'usagers que nous sommes dénoncent depuis des décennies les effets délétères de la prohibition, dont le renforcement des réseaux criminels. Les nuisances liées au trafic pour les habitants de certains quartiers sont indiscutables, mais ils subissent aussi les conséquences de l'arsenal répressif censé les endiguer. Si l'objet de cet article est de lutter contre les trafics, il aurait pour conséquence de transformer une condamnation individuelle, souvent pour un délit mineur et non violent, en une condamnation collective. Comment peut-on juridiquement et socialement pénaliser des personnes, familles, colocataires, etc., pour un acte qu'ils n'ont pas commis dans un projet de loi dit d'égalité ? Au passage, la prohibition engendrant une surpopulation carcérale record, comment mettre en place des alternatives à l'incarcération et aménagement de peines si on n'a pas de domicile ? D'un point de vue médico-social, comment feront les personnes en parcours de soins d'addictologie pour accéder à un logement ? Quid des personnes cultivant du cannabis pour des raisons thérapeutiques, alors que l'État ne fournit toujours pas de Sativex, qui est un médicament à base de THC, qui est pourtant autorisé. On laisse des malades se chroniciser en situation de précarité, alors. Au-delà de tous ces aspects, c'est la contradiction entre des sanctions judiciaires et le droit constitutionnel au logement que cela interroge. L'extrait de casier judiciaire ne faisant pas partie des documents exigibles par un bailleur, cela présuppose-t-il une possible ingérence des bailleurs privés et publics dans la vie privée ? Dans un contexte d'accès au logement déjà tendu, voire très tendu, cela porterait gravement préjudice au droit au logement et au respect de la vie privée pour l'ensemble de la population. Nous dénonçons donc la mise en place d'une nouvelle loi d'exception, stigmatisant encore un peu plus un pan entier de la population, citoyen et contribuable à part entière. Ce traitement aurait des répercussions inacceptables sur l'ensemble de la population dans une époque où la France compte déjà 3,8 millions de personnes mal logées ou sans domicile, et dont 12 millions sont touchés à des degrés divers par la crise du logement. Nous souhaitons donc le retrait de cet amendement contraire à l'essence même de ce projet de loi, dont je vous rappelle le nom quand même, ça fait un peu mal au derrière, hein, un projet de loi qui s'intitule « Égalité et citoyenneté hein. ». Voilà, voté à l'initiative d'une députée socialiste. Ah, forcément.
Voilà, et donc ce texte a été écrit conjointement avec Assud, le Cirque et Principe Actif.
Avec le soutien de Médecins du Monde et du Droit au Logement.
Voilà, tout à fait.
Voilà, on en a déjà parlé la semaine dernière, il y a 15 jours, il y a même il y a 3 semaines. C'est à gerber. Franchement, c'est à gerber, quoi. Enfin, je sais pas, je suis de plus en plus dégoûté, là. Je sais plus. Qu'est-ce qu'il faut faire?
Voilà. Oui, et puis en plus, de toute manière, les plus riches ont leur propre logement, donc ils ne sont pas gênés vers ça. Quoi.
Non,
C'est toujours stigmatisant sur les populations les plus en difficulté. De toute manière, c'est les seuls qui sont contrôlés, hein, comme tu le disais tout à l'heure, comme tu le rappelais très bien.
Voilà.
Allez, on s'en fait une...
Une autre, de petite musique.
Ganja in the morning, ganja in the night, ganja anytime you want. Ganja in the morning, ganja in the night, ganja anytime you like. Cause I feel happy anytime you think of it, anytime you roll it. Don't be small, don't smoke it all, don't make my joints so small. Cause ganja, ganja, ganja's right for me. Cause ganja, ganja, ganja's right for me. Ganja, ganja, marijuana. Ow! Ganja, ganja, marijuana. Ganja, ganja, marijuana. Ganja, ganja, marijuana
is what we need.
Ganja, ganja, marijuana
is what we need.
Et voilà, c'était,
aïe, aïe, aïe.
C'était les Castafiore Bazooka.
Oui.
Ah oui, oui, il faut bien s'écouter ça pour se remettre des petits chocs. Hein, quand on voit des lois aussi discriminatoires. C'est assez.
Mais le pire, c'est que, encore une fois, j'insiste, hein, j'ai trouvé que je suis psychorigide là-dessus ou pas, mais encore, ce genre de loi serait à l'initiative, je ne sais pas, de quelqu'un de la droite, des Républicains ou même du Front National. Bon. C'est dans l'ordre des choses, ça surprend personne. Mais non, c'est quelqu'un du Parti Socialiste qui est à l'initiative de ce projet de loi. Enfin, je veux dire, il faut pas avoir fait des brillantes, difficiles études sur des sujets incroyablement complexes pour savoir et comprendre que déjà il y a quand même des millions de gens qui fument du cannabis, qu'on soit d'accord ou pas, hein, et que voter une loi comme celle-ci risque vraiment de mettre dans la panade des dizaines de milliers de personnes. Enfin, je veux dire, Si cette députée, cette élue, elle a pas compris ça, je sais pas ce qu'il faut qu'elle fasse. Hein ? Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas quoi dire. Qu'elle change de parti. Voilà. Ça y est, j'ai trouvé la réponse.
Qu'elle assume.
Qu'elle assume ses positions et qu'elle aille militer dans un parti aux idées plus étroites. Voilà. Mais peut-être que le PS maintenant c'est ça, hein. C'est un pays aux idées très étroites en fait. Je sais pas pourquoi on reste romantique avec le Parti Socialiste en fait. On imagine, on espère, mais en fait non, il faut juste voir ce qu'il est. Et finalement elle est peut-être bien à sa place en fait. C'est peut-être ça là. Ouais, je dois être naïf en fait. Bon allez, on va passer à autre chose parce que sinon...
Tout à fait, tiens, juste pour se souvenir comme ça, on va parler un tout petit peu de Russie. C'est ce week-end, il y a eu quand même je crois qu'ils ont fait 50 morts là, de pauvres dans la région de Irkoutsk.
Irkoutsk,
en Sibérie là-bas, tout profond. A priori, il y a pas mal de pauvres. Poutine a augmenté les taxes sur l'alcool. Donc, ils n'arrivent plus à se payer de l'alcool.
Donc ils s'en font eux-mêmes. Ils s'auto-produisent en alcool, c'est ça,
ils ont acheté une sorte d'huile de bain parfumée.
Ouais.
Dans lequel il y a du benzanol.
Ouais.
Ouais, c'est une sorte d'antigel, hein. Quoi, c'est, ouais, je sais pas exactement. Bref, voilà, quoi, ça a fait 50 morts.
Voilà, voilà.
Ouais, bon. J'ai regardé, ça arrive, hein, il y a déjà eu, pour des souvenirs comme ça, en 2015 déjà, au Sénégal, 70 morts avec du ginométhanol.
Ouais.
Et il y avait eu aussi comme ça, en Inde, dans le Bangladesh, en 2011, 102 personnes comme ça qui sont mortes. Alors c'était pas un truc au méthanol, c'était une sorte d'alcool à fabriquer à partir...
L'éthanol, pas le méthanol.
Non, c'est du méthanol.
Ah, du méthanol,
ah. Oui, c'est pour ça, l'éthanol, c'est ce qu'on boit, c'est mieux.
Oui.
Mais le méthanol, justement, fait un peu les mêmes effets, mais pas tout à fait la même composition chimique, et c'est beaucoup plus dangereux. Et l'autre, je crois que c'était un carburant qu'ils avaient rajouté aussi dans celui en Inde, voilà. Bon, c'est des prix ridicules, hein. Ils s'achètent 40 centilitres pour 50 cents. Voilà.
Bien. Après ces infos guirettes,
on va parler de légalisation réussie, ou en tout cas de ce qu'on peut en dire actuellement. Le cannabis pour relancer la croissance, c'est le professeur à l'école École d'économie de Paris, qui est directeur de l'HESS, j'en sais pas
ce que c'est. Le HESS, l'école des hautes études en sciences sociales.
Voilà. Et donc,
Pierre-Yves Joffard.
Voilà.
C'est lui qui écrit la tribune dans Libération avec, je vais le dire tout le monde, hein, et avec Anne-Laure Delatte, Bruno Amable et Johanna Marinescu. Voilà. Donc,
c'est une étude sur la légalisation de la marijuana dans l'État du Colorado.
Oui.
Donc, il y a déjà 4 ans que l'expérience a commencé là-bas, et cela démontre ses effets positifs sur l'économie, création d'emplois et hausse des recettes fiscales. Donc, l'article dans Libération, c'est pour dire le cannabis pour relancer la croissance. Et il rappelle que, en plus des 4 États qui ont déjà légalisé, hein, en 2012 et en 2014, l'Alaska et l'Oregon en 2014 et Colorado et l'État de Washington, hein, pour les rappeler, il y a eu en 2016 le Nevada,
le Massachusetts
et surtout la Californie,
ouais.
Donc qui viennent de le faire donc à cette dernière élection. Et donc, maintenant, près de 49 millions de citoyens américains, ce qui fait quand même pas loin de 10% de la population, est dans la légalisation.
Et quasiment l'équivalent de la totalité de la population française. Parce qu'on est quoi, 65 millions ?
Oui.
Donc, 50 millions quasiment de personnes aux États-Unis vivent dans des états où il est possible d'avoir d'une manière ou d'une autre du cannabis.
L'article rappelle aussi qu'il y a eu l'Uruguay en 2013. Bon, là aussi, on va bientôt commencer à avoir les résultats là-bas. Et maintenant, c'est le Canada qui devrait arriver à en faire de même. On va en parler pas mal de fois tout à l'heure. Voilà, donc là c'est une étude complète hein, qui propose une analyse sur l'impact économique de la légalisation du cannabis au Colorado. Voilà, ça, c'est nouveau, ça on peut le faire maintenant parce que c'est légal. Et donc on peut voir comment l'activité économique est réellement générée par ce produit sur un territoire où vivent donc plus de 5 millions d'habitants. Donc ils ont trouvé que pour l'agriculture... Le commerce ou l'activité de la transformation, il trouve près de 13 000 emplois là-dedans.
Créés directement ou indirectement, c'est ça hein?
Oui, directement, plutôt directement. Directement. Plus encore 3 000 autres indirectement. Voire encore 2 500 autres de façon très indirecte. Et voilà. Mais donc, ils calculent. Moi, je dirais moyennement large. Après, il faut voir que la culture là-bas, c'est une culture indoor, donc c'est très mécanisé. Il pourrait y avoir des cultures moins mécanisées, outdoor. Voilà, bon, faut en extérieur.
Bah, la culture indoor.
Ça, c'est des choses à étudier.
Moi, je trouve que c'est très beaucoup en Californie, dans le comté de Humboldt, par exemple, où il y a beaucoup de culture extérieure. Mais peut-être qu'en Colorado, c'est beaucoup plus en intérieur. Je pense que chaque État, aussi en fonction d'où il se trouve et de son climat, ne fera pas pousser le chanvre de la même manière, en fait. Je suis pas étonné qu'au Colorado, ils font ça plutôt en intérieur. Le Denver, quand même une ville qui a 1600 mètres d'altitude. Hein, faut quand même pas l'oublier, quoi. Alors que la Californie, on est au bord de la mer, on est moins haut, quand même. Hein. Beaucoup moins haut, même. Enfin, toute la Californie n'est pas au bord de la mer, hein. Je précise, dans le nord de la Californie, vers Humboldt, c'est un peu plus dans des monts.
Donc là, l'étude est sur le Colorado, et donc on a légalisé à plus de 18 000 emplois directs ou indirects. Et il y aurait aussi, pour les recettes fiscales, à peu près 120 millions de dollars. Ça représente 30% de moins que pour les cigarettes et trois fois plus que pour l'alcool, d'après l'article. Donc si on le rapporte tout ça à la population française, on aurait donc 200 000 emplois non subventionnés et plus de 1,5 milliard de dollars de recettes.
Ouais. Il me semble qu'il y a quelques années, au CIRC, on disait que s'il y avait une légalisation, ça créerait 100 000 emplois. Et là, ça semble dire qu'il y en aurait deux fois plus.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Et je pense que le monde... Oui, je pense que c'est bien ça.
Ouais.
Et encore, selon comment c'est légalisé, si on y travaille le côté bio, on en crée 100 000 de plus.
Peut-être bien, oui. Ouais. Voilà. Alors, t'as fini avec cet article ?
Oui, puisque le suivant, de toute manière, reprend un petit peu tout ça. Mais vas-y.
J'aime bien la petite phrase au début de l'article. Les pays qui, comme la France, en restent encore à une ligne répressive, feraient bien de tirer les leçons de ce qui se passe ailleurs. J'aime bien cette petite phrase de Joffard et compagnie. Oui. Mais bon, nos politiciens ne lisent pas les rapports intéressants, ni les articles, ni n'écoutent les scientifiques qui disent des choses intéressantes. Parce que le propre de nos personnalités politiques aujourd'hui en France, et avant aussi, hein, on le sait bien, hein, c'est de tout savoir, surtout, hein, d'être omniscient. À tel point que, en gros, ils en savent rien sur rien, quoi. C'est bien. Voilà. Donc, ils ne vont pas s'informer davantage, même si je pense que c'est un sujet qui leur bourdonne dans les oreilles à présent. Voilà. Surtout que, toujours dans Libération, hein, là, il y a cet article dont on va pas s'attarder dessus très très longtemps. Il y a quand même quelques petits trucs dans cet article que je trouve globalement assez mauvais d'ailleurs, enfin pas terrible plutôt, excusez-moi, je vais nuancer, qui est écrit par Kim Hulot-Guillot, voilà. Et donc là il nous parle de Hamon, en l'occurrence Benoît Hamon, qui lui est plutôt favorable à une légalisation.
Il est totalement favorable à une légalisation. Ouais. Il essaye justement il prend trois arguments principaux. Donc les effets économiques, où il reprend totalement tout ce qu'il vient de se dire.
Par Joffard, oui.
Voilà, donc il explique le nombre de le nombre d'emplois créés, etc. Et si on fait pareil avec, comme voilà, ça pourrait créer pas mal d'emplois. Donc là-dessus, l'autre rétorque que c'est à peu près exact. Donc là-dessus, ils sont d'accord.
Voilà. Alors par contre sur la délinquance, alors là le journaliste, il a visiblement pas tout compris quels sont les effets sur la délinquance de la prohibition du cannabis. Parce que dans son exposé, il ne parle que de du fait que la légalisation, du fait que le cannabis est légal, forcément l'activité policière sur cette question bien particulière de la répression de la consommation ou de la possession ou de la culture, bref, du cannabis a évolué, certes, mais pas énormément. Et par contre, il parle absolument pas des autres délits qui ont chuté de manière spectaculaire au Colorado. Et qui, au départ, a priori, n'ont absolument aucun lien avec le cannabis. Voilà. Mais qui, pourtant, sont en chute libre. Eh ben, il n'en parle pas dans son article. J'ai trouvé ça vraiment dommage. Il y avait eu un article qui était paru dans le courant de l'année ou en fin d'année dernière qui disait que, suite à la légalisation au Colorado, ils avaient assisté à une... Alors là, par contre, je suis désolé, je vais pas être très précis, je m'en excuse auprès de nos auditeurs et auditrices, mais je me rappelle plus de quel délit exactement il s'agissait. Mais il me semble qu'il y avait une baisse spectaculaire. Alors c'est ou les cambriolages ou les vols de voitures, je me rappelle pas. Ils avaient observé ça. Donc oui, la prohibition, la légalisation a bel et bien un effet sur une baisse de la délinquance de manière générale et pas que par rapport à l'infraction. Stricto sensu, hein, mais par rapport à d'autres méfaits en fait. Hein. Voilà, mais il me semble bien que c'était plutôt les cambriolages. Je sais pas, il y avait une histoire de vol avec violence aussi. Voilà, donc là, voilà, il y a eu une baisse. Bon, c'est pas dit dans cet article, donc c'est un peu dommage, voire c'est même carrément dommage. Hein. Ensuite.
Après, la troisième chose, c'est les effets sur l'accès au cannabis et sur la santé.
Alors là, je trouve que c'est assez peu clair ce qui est dit.
Tout à fait.
Je ne sais pas ce que tu en as pensé.
Je pense la même chose que toi, c'est pas clair du tout.
C'est pas clair.
Il y a plein de trucs, on ne voit pas s'il dit que c'est pour, s'il dit que c'est contre. Bon, il parle d'un truc qui est plus ou moins intéressant, qu'on avait noté, je l'ai lu tout à l'heure, c'était l'exposition de la marijuana pour les tout jeunes. Alors il y a eu un petit peu plus de cas, a priori, passé de 739 à 956. Alors, ouais, c'est vrai qu'il y avait le problème des bonbons et des gâteaux qui étaient faits à base de chanvre, créé la confusion, et donc qu'ils ont été, on les a obligés à réduire la quantité pour éviter des intoxications sévères pour des jeunes enfants. Donc voilà.
Oui, ça, on en avait déjà parlé.
On avait déjà parlé, alors je ne sais pas si c'est de ça qu'il parle. Mais sinon, globalement, ce qui raconte est un peu n'importe quoi. Entre autres, en disant, si les policiers ne chassent pas le chiteux, ils vont faire autre chose. Hein, donc on ne va pas dire que c'est du temps gagné. Et donc, il dit, voilà, c'est, il, bon, bref. Et les seules choses, chaque fois qu'il veut parler de... Et il dit les conclusions sont peu concluantes parce qu'en plus, en fait, a priori, ça va pas dans son sens, donc il dit rien.
Oui, il semblerait que ce journaliste soit un prohibitionniste. Bon, il va pas le dire là, mais voilà, c'est pas un prohibitionniste à qui on a dit de faire un article qui montre quand même que ça peut marcher. On dirait que c'est un peu ça. Notamment par rapport au fait de l'alcool, hein, que justement, c'est pas influent au niveau de la consommation, s'il y a moins de consommation, alors qu'en fait, il y a d'autres articles dont on a déjà parlé, hein, qui montrent que dans les États où on a légalisé, on observe une baisse de la consommation de médicaments d'opiacés. Une baisse assez importante. Et là, il n'en parle pas. Par exemple, il parle pas du tout de ça, de cet aspect-là. Et pourtant, c'est à mon avis, c'est plutôt un effet positif. Hein. Donc là, il en parle pas. Voilà. Bon, après, J'aime bien quand même la dernière phrase. Au reste, il est encore trop tôt pour savoir. Alors là, il parle des maladies graves. Il reste encore trop tôt pour savoir si le nombre de maladies graves, comme les cancers, augmente ou non après la légalisation. Voilà. Donc, je pense qu'on peut dire que il est encore trop tôt pour savoir plein d'autres choses, en fait. Voilà. Surtout. Voilà, un peu pour ce deuxième article de ce deuxième article de Libé. On se passe un coup de musique ou on continue? Il est moins 10, il nous reste 10 minutes.
On va peut-être continuer un petit peu.
Continuons.
Fait, pour se faire rapidement ce qui se passe au Canada.
Très bien. Donc oui, on va parler un peu du Canada.
Parce qu'en même temps, il y a le Canada qui vient et avance, lui, sur la légalisation du cannabis. Donc il y a un groupe de travail qui a travaillé, et ça y est, il propose un cadre législatif pour mettre fin à la prohibition, et il a rendu son rapport ce mardi 13 décembre. Voilà, donc on rappelle, Justin Trudeau, hein, le premier ministre du Canada, a donné son intention pendant la campagne électorale de légaliser, donc il avance là-dessus. Et donc il y a un groupe de travail qui a bossé là-dessus et qui a synthétisé en 81 recommandations. Donc ils rappellent qu'ils veulent protéger les jeunes canadiens en gardant le cannabis hors de portée des enfants et des jeunes. Ils veulent enlever les profits des mains des criminels. Ils veulent réduire les fardeaux sur la police et le système de justice. Ils veulent protéger la santé et la sécurité publique. Ils veulent établir et exécuter un système strict de production, de distribution et de vente en adoptant une approche axée sur la santé publique. Donc, ils veulent, premièrement, ils autorisent les Canadiens de plus de 18 ans à pouvoir faire pousser jusqu'à 4 plants chez eux. Ils peuvent en avoir sur eux jusqu'à 30 grammes. Il devrait être possible, toujours selon le rapport, de fumer du cannabis dans les endroits publics où l'on consommerait du tabac, où la consommation de tabac est autorisée. L'un des aspects les plus controversés concerne l'âge minimum légal. En fixant 18 ans l'âge minimum, le rapport va à l'encontre de la recommandation de l'Association médicale canadienne qui proposait 21 ans. Voilà, donc là-dessus, il y a une querelle d'experts hein, qui dit que comme la consommation est la plus forte chez les Canadiens âgés de 18 à 24 ans, ils estiment que la suggestion enverrait les jeunes adultes vers le marché noir, limitant du coup les bénéfices attendus de la légalisation.
Je vois que chez les Canadiens aussi, il y a une erreur d'appréciation. Hein, je pense que c'est un peu comme en France d'ailleurs, d'après leurs sources, qui sont à mon avis pas très très exactes. Voilà, qui consiste à penser que la majorité des jeunes, des gens qui consomment sont des jeunes et ils ont entre 18 et 24 ans.
C'est exact. On l'a vu avec notre personne qui était née en 44 qui conduisait tranquillement sa voiture.
Mais je pense que, en fait, alors la raison, hein, il faut le dire aux auditeurs, auditrices, hein, c'est que parmi les chercheurs qui effectuent des recherches sur les consommateurs, déjà ils partent du principe que c'est plutôt les jeunes qui consomment. Et ils considèrent qu'après 30 ans, il y a une très importante baisse de la consommation chez les gens qui passent cet âge, en fait, et que du coup, ils disparaissent un peu de leur statistique. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. C'est plutôt, à mon avis, une erreur d'appréciation et de maillage.
Tout à fait. La consommation de cannabis va de 3 à 5%. Voire à 7% selon les pays et les âges. Hein. C'est un petit peu ça. Et la moyenne est à 5% d'une population globalement.
Voilà. Donc, continuons.
Les points importants, hein, c'est qu'ils peuvent consommer donc, de plus de 18 ans à faire pousser jusqu'à 4 points et avoir jusqu'à 30 grammes sur soi. Et donc, ça va. Et de fumer dans les lieux publics, c'est sympa quand même. Ce qui veut dire par contre que sans doute les lieux publics où l'on peut fumer, y compris du tabac, va sans doute réduire.
Oui, ça.
Mais ça, je ne sais pas comment ça se passe exactement au Canada. Voilà, sinon ils vont continuer. Pour élaborer ces recommandations, ils ont eu 9 experts qui ont reçu 30 000 propositions de la part de nombreux acteurs de la société civile. Donc ça a été vraiment une large consultation nationale. Le cannabis pourrait être vendu par des acteurs de la société civile, et donc dans des centres de distribution spécialisés, pardon, encadrés par les provinces et les territoires, et que ces commercialisations seraient interdites dans les négoces d'alcool et de tabac, ainsi que près des écoles et des parcs. Les experts demandent par ailleurs l'élaboration de stratégies de prévention, comme pour le tabac, dans le but notamment d'encourager la consommation de cannabis moins puissant. Enfin, les recettes fiscales tirées de ce nouveau secteur économique, elles devraient être réinvesties dans la prévention, l'éducation et le traitement des abus liés à la consommation. Voilà, voilà ce qu'ils ont déduit de leur très grande consultation. Et sinon, les leçons du Colorado et de l'État de Washington, ouais, ils en rajoutent pas grand-chose. J'avais rien souligné, je sais pas si...
Ben oui, enfin, des choses qu'on a déjà un peu dites. Après, voilà, effectivement, les Canadiens sont partis faire un tour dans certains États qui ont légalisé, un peu pour avoir... pour entendre un peu ce qu'il faut éviter de faire, en fait. Hein, voilà, il faut être strict en matière de publicité, notamment, voilà ce que leur ont conseillé les Américains. Strict au niveau de la régulation des produits comestibles à base de cannabis, voilà, les emballages, il faut écrire ce qu'il y a sur l'emballage, la teneur en cannabis. Voilà, tout ça pour éviter les accidents survenus aux États-Unis. Lesquels accidents? On a déjà parlé, hein, c'est-à-dire des accidents, c'est quoi souvent? Bah, c'est des jeunes, des enfants, en fait, de moins de 10 ans. Qui vont tomber par hasard sur un cookie qui est resté sur le coin de la table et que les parents ont mal rangé, lequel gâteau au bonbon ne contient pas que du glucose ou des œufs, de la farine et du chocolat. Voilà, des fois il y a d'autres substances et bah oui, c'est sûr que ça peut provoquer des accidents et que du coup il faut faire gaffe à ça, quoi, c'est certain. Voilà. En dehors de ça, rien de plus. Les Canadiens semblent bien partis pour faire un truc quand même assez carré, assez d'aplomb, voilà, ne contentera vraisemblablement pas tout le monde d'ailleurs.
Voilà, et en plus qui sera à degré différent, parce que d'une province à l'autre, ça va changer sur les applications finales.
D'accord, ouais.
Donc ça...
Ouais, ouais.
Ça va pas tout simplifier.
Ensuite... Alors, je te propose de faire d'une pierre deux coups au niveau des deux derniers articles au sujet du Canada. Alors, il y en a un qui nous vient de scienceetavenir.fr, un article qui a été fait par Science et Avenir en France, qui nous parle de l'opération marketing effectuée par Mark Emery et son épouse Jodie Emery.
Oui, Mark Emery, le prince de l'herbe.
Tel qu'il est surnommé. Ça se passe à Montréal. Et ils en ont profité pour effectuer l'ouverture d'une des 8 boutiques vendant du cannabis à Montréal, qui s'appelle Cannabis Culture. Un petit peu de monde, hein, qui est venu participer un peu à l'inauguration, l'ouverture, je sais pas comment on peut dire, de cette boutique, en fait. Je n'ai rien de plus à dire sur cet article qui parle de l'ouverture de cette boutique. Alors Mark Emery, on ne va pas le représenter, c'est un homme de 58 ans, un cannabinophile, militant, activiste depuis plusieurs années. Il avait quand même été extradé aux États-Unis en 2010, il avait été condamné à un peu moins de 5 ans de prison parce qu'il avait vendu via son site internet plus de 4 millions de graines de marijuana.
Un petit peu commerçant.
Commerçant, businessman, et beaucoup de ses graines étaient vendues aux États-Unis notamment, et donc c'est pour ça qu'il avait été extradé, donc il a quand même fait de la prison.
Et puis là...
Et donc, puis en fait...
Et là il vient d'ouvrir des...
Non, je sais pas.
Cannabis Club, ou comment il appelle ça?
Non, des boutiques, ouais.
Des boutiques.
Cannabis Culture.
Les Cannabis Culture, voilà.
Et donc, cet article de Science et Vie, en fait, ne nous dit pas, enfin, ce qu'ils disent, enfin, on le sait, que la loi est encore pas passée, pas votée au Canada, mais, il y en a qui sont en avance, et notamment Mark Emery. Mais du coup, ce qu'ils se doutaient pas, ou peut-être ils se doutaient, ils l'ont peut-être fait exprès, c'est que comme la loi n'est pas votée et que la police canadienne connaît aussi Mark Emery très bien et sait ce qu'il fait, ils sont descendus dans sa boutique à Cannabis Culture, laquelle parle Science et Avenir. Et du coup, la police est venue le contrôler et l'arrêter. Il y a quand même eu 10 arrestations. de personnes hein, pour possession de stupéfiants, dont celle de Marc Emery, hein, qui s'est fait arrêter. Emprisonnez-moi si vous le voulez, avait-il lancé à la presse jeudi dernier. Voilà. Et donc il s'est fait attraper, il a été emmené par les flics dans leur bagnole voilà, en disant oh, « c'est dégoûtant, c'est une injustice, cette arrestation est une erreur et la prohibition est une erreur ». Le Premier ministre Trudeau est une disgrâce, tout comme le maire Denis Coderre. Voilà ce qu'il a dit en hurlant. Bah, il a raison de gueuler d'ailleurs. Hein. L'opération apparemment ne visait pas les clients en tant que tels. Mais voilà, bon, l'enquête n'est pas terminée, dit la police. C'est possible qu'il y ait d'autres accusations criminelles qui soient déposées. Voilà. Donc qu'est-ce que dit la police? En gros, ils disent, bah, de toute façon, la loi n'est encore pas votée. Respectez la loi, c'est encore pas fait. Et tant que la loi n'est pas votée, bah, vous restez arrêtable. si j'ai bien tout compris. Voilà. Et la police, hein, rappelle, hein, voilà. La possession et le trafic de marijuana est illégal, présentement. Le service de police va appliquer la loi qui est en vigueur. Voilà. La police a quand même saisi 18 kilos de cannabis dans cette boutique. Hein. De l'argent comptant et de l'équipement servant, je cite, hein, au trafic de cannabis. Voilà. Au trafic de cannabis. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'ai trouvé rigolo? Voilà, Jody Emery, hein, il rajoute. Je demande au Premier ministre Justin Trudeau, qui a lui-même avoué avoir déjà passé un joint, à se livrer à la police pour avoir violé la loi. C'est un hypocrite. Tout simplement. Bah oui, c'est assez vrai. C'est assez vrai. Voilà. Voilà un peu pour le Canada. Et puis donc, pour terminer, parce que vraiment, je ne peux pas me l'encadrer, celui-là. De qui je parle? De qui s'agit-il? Eh bien, de Rodrigo Duterte. Et c'est qui ce type? C'est le président des Philippines. Voilà. Encore une fois, je répète, c'est la crapule de l'année 2016. Alors, il a été élu dans le courant de l'année là, aux Philippines. Et il avait été élu notamment en promettant de mener une guerre sans merci contre les dealers de drogue et l'usage aussi. Alors, il avait promis de faire ça, mais il avait surtout quasiment appelé au meurtre, en fait. Hein. Il y a déjà eu, je crois, 2000 personnes qui sont mortes aux Philippines, suite à cette campagne qui a été lancée. Alors, sauf que là, quand même, dans cet article, c'est un article de Radio-Canada, on apprend quand même des choses qui valent un peu le coup. Il s'avère que ce Rodrigo Duterte est lui-même un consommateur de drogue. Alors, c'est un médicament, hein, le fentanyl. Sauf que le fentanyl, c'est pas rien, hein.
C'est un opiacé déjà.
C'est un opiacé. Il faut savoir quand même que au Canada, le ministre de la Santé a déclaré au mois d'août dernier qu'il prévoyait d'interdire 6 produits chimiques qui étaient utilisés dans la composition du fentanyl. Hein? Voilà. Et lui, alors il prend ça parce qu'apparemment il a des douleurs suite à un arrêt de mobilette, hein, après ce qu'on peut lire. Son médecin l'avait forcé à arrêter d'utiliser cet opiacé après avoir constaté qu'il en faisait un usage abusif et en prenait plus que les doses prescrites. C'est quand même dingue. Je trouve ça fou quand même. Alors, en fait, lui, il dit que il a déclaré souffrir de migraines et d'une affection cardiovasculaire liée au tabagisme. Voilà, bah, y a quand même des politiques, hein, qui réagissent, hein, notamment Carlos Zarate, qui est membre du Congrès, qui dit, pour mettre fin aux spéculations, il vaudrait mieux que son médecin explique comment le président contrôle ses douleurs. Il y a une sénatrice aussi, Leila de Lima, qui est une ancienne ministre de la Justice et qui est une opposante à Duterte, qui a quand même déclaré que l'état de santé du président n'importait pas autant que les effets secondaires et l'impact possible des médicaments, en particulier sur sa lucidité. Un sénateur également de droite, hein, qui siège dans l'opposition, a ajouté qu'en reconnaissant avoir dépassé les doses qui lui étaient prescrites, le président Duterte avait avoué être un drogué. Aïe, 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 aïe. Alors, il a démenti, hein, Rodrigo Duterte. Il dit, oui, il y a de la régularité, et puis à côté, il y a quand même le fait d'être esclave de la drogue. Voilà. Alors, ça fait désordre, hein, quand même, dans un pays dont il est le chef et dans lequel il a lancé une croisade sanglante contre le narcotrafic qui a déjà fait des milliers de morts. Une campagne qui est critiquée de toutes parts par la communauté internationale. Alors, il n'en est pas à, à cette seule ignominie. Il est surnommé le Donald Trump de l'Est. Voilà, il est connu pour son impulsivité. Il avait déjà menacé de quitter les Nations Unies. Et alors, il a quand même insulté Obama. C'est quand même pas rien. Alors, sans le dire directement, mais en laissant entendre que c'était un fils de pute. Hein, voilà. Donc, Rodrigo Duterte. Pour finir donc, voilà, le fentanyl c'est quand même un opiacé, comme tu disais, 40 fois plus puissant que l'héroïne et jusqu'à 100 fois plus puissant que la morphine. Voilà, donc c'est pas rien. Donc un produit dont on ne se décroche pas comme ça non plus. A priori, hein, je me trompe
oui,
peut-être.
Oui, non,
voilà. Mais à côté de ça, voilà, lui dit que c'est pas un drogué et il massacre les drogués, voilà. Les usagers de substances.
C'est
vraiment la plus grosse crapule de l'année. Je crois qu'il faut pas hésiter à le dire. C'est un salaud ce type, quoi. Voilà. C'est malheureux et j'espère qu'on va pas en avoir un à peu près comme ça chez nous. Il semblerait que c'est cette espèce de politicien est en voie de prolifération sur la surface du globe. Et c'est bien malheureux. Voilà, encore une fois, je vais quitter l'émission en n'étant pas apaisé. Voilà, donc on va se terminer sur cette note cynique, je sais pas comment dire. Sur ce président anti-drogue qui est lui-même finalement un consommateur d'une drogue ultra puissante. Voilà, donc la crapule de l'année, comme on disait. Voilà, c'est là-dessus que.
C'est fini, c'est le cannabis circus.
Je pense le dernier de l'année 2016, mais peut-être que quand même je serai là l'année prochaine, la semaine prochaine. L'année prochaine, c'est sûr, oui.
En tout cas, bonne fin d'année.
Bonne fin d'année, joyeux Noël et bonne année à toutes et à tous. Merci à toutes et à tous d'être fidèles à Cannabis Circus tous les lundis soirs. Voilà, on vous remercie. Bonne fête et à bientôt. Au revoir.
Pas de chasseur de trous ce soir.